dans le plus grand silence. Il y en a encore qui parlent un peu. Attendez qu'il y ait bien le silence. C'est tellement plus agréable de parler dans le silence. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Moi, je suis Delphine Aubert. Je viens d'être nommée secrétaire générale du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Voilà.
Bonsoir à tous. Moi, je suis Pauline Domingo. Je m'occupe du déploiement des politiques petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité à la CNAF et donc en lien avec les 101 CAF qui les mettent en œuvre.
Oui, bonjour. Donc Marie Lambert-Muyard, je suis chef du bureau famille et parentalité à la Direction générale de la cohésion sociale. Donc on s'occupe du cadre réglementaire pour les crèches, les assistants maternels, les gardes d'enfants à domicile et le soutien à la parentalité, principalement.
Jean-François Robic, moi je suis parent d'une université populaire de parents de troisième génération, la génération d'avant, et désormais président de l'AFUPP-IPC, Association fédérative des universités populaires de parents et des initiatives parentales citoyennes.
Voilà. Depuis ce matin, donc vous êtes tous, toutes nos trois invités, eux, Jean-François était là depuis ce matin, vous êtes arrivés en début d'après-midi, et pour le dire très rapidement, depuis ce matin, il y a un mot, il y en a beaucoup, mais il y a un mot par exemple comme horizontalité, qui a habité pas mal de nos débats, de vraiment travailler ensemble, d'être à la même hauteur, de coopérer, personne au-dessus, personne en dessous, enfin voilà un petit peu la teneur de nos propos. Mais ceci ne concerne pas que les échanges entre parents et professionnels, ou entre parents, professionnels et institutions. C'est aussi, par les UPP, par exemple, la production d'un savoir qui est construit comme ça. Un savoir nouveau, en quelque sorte, mis en évidence dans les recherches. Dans les actions citoyennes, c'est vraiment agir ensemble, côte à côte, pour se changer les représentations mutuelles qu'on a sur l'autre. Voilà. Mais vous, toutes les trois, Delphine Aubert, Pauline Domingo et Marie Lambert-Muyard, je vais peut-être dire des mots un peu abusifs, mais votre métier, dans les lieux où vous êtes, qui sont des lieux institutionnels importants, c'est de fabriquer ou de contribuer à fabriquer des politiques publiques, et notamment des politiques publiques relatives à la parentalité. Bon, pour le CNLE, Delphine Aubert, c'est beaucoup plus large que ça. Pour la CAF, c'est évidemment... plus vrai, enfin, c'est plutôt plus vrai, par exemple. Bon. Enfin, fabriquer ensemble des politiques publiques. Et voilà l'enjeu de cette table ronde. C'est comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des politiques publiques, en vrai aujourd'hui et en perspective demain, avec, en s'éclairant les uns les autres, parents, personnes concernées, pouvoir public au sens le plus large, professionnels de terrain. Comment on est associé à ça ? Évidemment, comme toutes les tables rondes, on y va en courant, mais on n'a pas l'impression de courir. Mais une première petite question d'abord, puisque vous étiez toutes les trois. Alors pardon, Jean-François, il parlera plutôt en dernier. Il réagira aux propos qu'il a entendus. Peut-être il vous questionnera. En tout cas, il dira ce que, du point de vue de l'Association fédérative nationale des UPP et des initiatives parentales citoyennes, ce qu'il a envie de pousser ou comment il a envie de vous interpeller. Voilà, et puis vous pourrez peut-être reprendre la parole à ce moment-là. Mais une première question, là, puisque vous avez été dans les ateliers cet après-midi, est-ce que vous pouvez sans du tout nous raconter les ateliers, mais dire une chose ou deux choses chacune qui vous a particulièrement touché ou étonné ou qui vous a redécouvert, ou une question que ça suscite en vous peut-être, ou voilà, faire le lien avec ce que vous avez déjà vécu aujourd'hui dans cette journée. Qui a envie de commencer ? N'importe. Pauline Domingo ? Allez.
Je commence parce qu'on était avec Marie dans le même atelier, comme ça elle sera obligée de s'ajuster à mes réactions. D'abord, un étonnement, enfin un apprentissage peut-être qu'on a tous partagé, je pense, dans l'atelier, c'était assez fort, finalement le rôle d'éducateur que les enfants peuvent avoir à l'égard de leurs parents. Voilà, c'était assez fort de dire finalement le pouvoir de transmission des enfants vers les parents. Et voilà, là où on construit nos politiques parentalité en disant le parent, premier éducateur de son enfant, l'atelier a un petit peu renversé cette perspective en plaçant l'enfant comme éducateur en devenir de ses parents. J'ai trouvé ça interpellant et voilà, ça m'a tout à fait marqué.
Merci beaucoup de prendre un élément comme ça. Marie-Lambert Millard.
Alors, je vais peut-être compléter rapidement, puisque j'étais effectivement au même atelier que Pauline, et j'ai aussi reproduit le petit triangle d'influence entre l'influence du parent sur l'enfant et sur la société, et comment ces flèches pouvaient être inversées. Mais un autre aspect qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la grande majorité de femmes dans la salle, et dans l'UPP de Mantes-la-Jolie aussi. On parle beaucoup de parents, mais là, en l'occurrence, c'était beaucoup de mères et beaucoup de professionnels. Donc, c'était aussi comment rendre visible leur rôle. Et enfin, vraiment, c'était frappant dans la salle.
Merci beaucoup, Marie. Alors, Delphine Aubert.
Alors, moi, j'étais dans l'atelier qui se déroulait ici. J'ai été frappée déjà par le résultat des recherches, les constats qui étaient faits, qui étaient vraiment très intéressants, les questions posées, enfin bon, voilà, la production qui a été faite par les UPP, déjà, il faut le souligner, hein, c'est quand même très intéressant et ça va alimenter quand même les politiques publiques, enfin on l'espère. Deuxième chose, moi j'ai été frappée par les questionnements qu'il y a autour de la participation, quoi. Du coup, là, on sent qu'on est à un stade où on doit passer à autre chose, quoi. Est-ce qu'on fait une UPP nationale ? Comment, en fait, cette démarche de participation se poursuit, voire s'approfondit ? Avec les questions sur la co-construction, etc., qui m'ont semblé extrêmement intéressants et qui rejoignent des réflexions qu'il y a dans d'autres démarches de participation. Donc, c'est très intéressant, quoi.
Merci beaucoup. Donc, en fait, on est à la bonne table ronde, quoi. C'est comment développer la participation et notamment quand on fabrique des politiques publiques. Et pour partir déjà d'une certaine réalité, donc la vôtre à toutes les trois, est-ce que vous pouvez chacune nous donner un exemple, juste un, qui vous satisfait plutôt dans ce qui existe déjà dans votre environnement professionnel et que vous appréciez parce que vous estimez qu'il y a des ingrédients, une réalité de démarche participative pour construire des politiques publiques. Qu'est-ce que vous avez déjà de positif dans votre besace, qui est évidemment un encouragement à aller plus loin. Qui veut commencer? Marie,
ouais. Allez, je me lance. Alors, je pense qu'on est plus à un stade de consultation renforcée que de totale co-construction en matière de politique publique et de soutien à la parentalité. On avance, mais on n'est pas encore totalement dans la co-construction. Un projet qui a été porté par le bureau pour lequel je travaille et dont une des chargées de mission qui a particulièrement porté le projet est dans la salle, c'est l'application sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une application qui a été lancée le 1er juillet et qui est maintenant disponible sur tous les téléphones et aussi sur Internet. Et celle-ci, elle a été vraiment construite et pensée avec les parents à partir de leurs besoins. Donc il y a 5000 parents qui ont été consultés en phase d'investigation pour définir quels étaient les besoins, quels outils pouvaient convenir. Ensuite, il y a 150 interviews qualitatives qui ont été conduites par des professionnels. Donc ils sont allés interroger des parents et des professionnels. Et ensuite, il y a 4 ateliers focus qui ont été faits avec les parents. Et 3 ateliers focus avec les professionnels. Et maintenant, les utilisateurs de l'application, majoritairement des parents et majoritairement des mères, je dois revenir sur mon propos premier, peuvent donner leur avis, savoir si ça correspond ou pas à leurs besoins. Et ces ateliers et cette co-construction, elle a été vraiment, j'ai dit co-construction alors que je parlais de consultation, mais ça a été vraiment précieux de penser l'application à partir des besoins des parents, parce que ça a permis de développer certaines fonctionnalités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé immédiatement. Il y a par exemple un calendrier qui permet d'envoyer des rappels d'actions à conduire en fonction de l'âge de l'enfant ou du stade de la grossesse. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pensé spontanément. Voilà un exemple d'action.
Merci beaucoup. Donc les 1000 premiers jours.
Les 1000 premiers jours.
Pauline Domingo.
Moi, je ne vais tout de suite pas répondre à votre question. parce que je n'ai pas un seul exemple, parce que j'en ai plein. Et c'est souvent des exemples qui se déclinent vraiment localement. Nous, dans la manière de penser les politiques publiques sur le soutien à la parentalité, on travaille avec des cahiers des charges. Et dans ces cahiers des charges, auxquels les porteurs de projets répondent, il y a une attention évidemment qui est très forte à la question de la participation des usagers, des habitants, des parents. Et c'est un peu l'ADN du cahier des charges des dispositifs, notamment en matière de soutien à la parentalité. Donc moi, dispositifs un peu phares que porte la branche famille dans ce domaine, c'est les actions qui sont financées dans le cadre des réseaux d'écoute, d'accompagnement et d'appui à la parentalité. Chaque année, c'est 10 000 actions qui sont financées dans ce cadre. Et il y a 3 500 actions qui sont à l'initiative des parents. Parce que dans le cahier des charges du Fonds national parentalité, la focale est centralement mise sur l'enjeu de co-construire les actions avec les parents. Et la force de ces cahiers des charges, c'est de laisser l'espace pour que des universités populaires des parents puissent travailler dans les directions qu'elle souhaite faire en réponse aux besoins de territoire. Deuxième secteur où il y a énormément d'espace, et je pense que les cahiers des charges sont de fait peu contraignants nationalement pour que localement chacun puisse s'en emparer, c'est celui des centres sociaux. Beaucoup de centres sociaux hébergent, accompagnent des universités des parents, en tout cas c'était le cas dans la table ronde où j'étais, et notamment les projets famille des centres sociaux qui sont co-construits avec les habitants du quartier, avec les parents du quartier. Et on a quelques très belles histoires locales. Et je pense notamment à un espace famille dans les Alpes-Maritimes le besoin, c'était est-ce que je peux ouvrir un espace ouvert toute la journée pour les parents et que les parents aménagent eux-mêmes, co-construisent les activités qu'ils ont envie d'y porter. Et donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas encore dans la co-construction totale, mais on peut tirer parti de ces expériences locales très réussies pour se projeter sur le niveau départemental puis national.
Merci beaucoup. Et je me permets peut-être de souligner, enfin c'est ce que j'entends, que c'est dès l'amont, tout en amont d'un projet, que les parents sont présents dans les exemples que vous avez donnés. Delphine Aubert.
Moi, je vais vous parler de la façon dont fonctionne le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, parce que c'est un lieu de participation. Du coup, pour vous dire, donc, en 2019, il y a eu une modification du décret et de la composition même du CNLE, puisqu'on a maintenant 32 personnes qui composent le 5e collège qui, en fait, sont en situation de précarité. Et on avait 8 avant, depuis 2012, et là, en 2019, on est passé à 32, ce qui est la moitié des membres du CNLE. Donc, c'est un gros, gros collège. Voilà, les autres collèges sont composés d'élus, de représentants syndicaux, d'associations, de grandes têtes de réseaux associatifs, de personnes qualifiées, donc universitaires, chercheurs. Donc on a un conseil qui est quand même avec une pluralité de points de vue, et on a un comité scientifique depuis 2020. Donc voilà, donc c'est vraiment un conseil qui donc fonctionne avec des personnes en situation de précarité, dont certaines donc sont accompagnés par les UPP, Échirol et Dieppe, donc voilà, qui ont donc cette double casquette de faire des recherches dans le cadre des UPP et également de siéger au CNLE et de travailler avec nous dans le cadre de la rédaction d'avis, puisqu'en fait le CNLE est placé auprès du Premier ministre et à ce titre on est là pour lui soumettre des avis sur la lutte, enfin sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Donc actuellement, on travaille dans le cadre de groupes de travail sur des thématiques qui sont le logement, l'égalité des chances et l'insertion et l'accompagnement vers l'insertion professionnelle et sociale. Dans ce cadre-là, en fait, on a des rapporteurs et des présidents qui sont membres du 5e collège et qui sont des personnes concernées. Elles se sont proposées pour être soit rapporteurs, soit présidentes. Donc là, on a vraiment un exemple de participation où on voit qu'on est dans la démarche où elles sont actives, elles prennent des initiatives, elles se sentent actrices de la, de la situation, enfin de la politique publique, et elles ont envie d'y contribuer. Donc là, voilà un exemple.
Merci. Merci pour tous ces exemples. Merci aussi pour vos manières de les raconter avec les yeux qui brillent. Et donc la question suivante, mais j'ai peut-être un peu la changer, c'est mais pourquoi c'est si important, pourquoi c'est si fondamental d'être comme ça dans une véritable participation, tout en sachant qu'on peut toujours aller plus loin dans la co-construction, mais pourquoi c'est si important? Et peut-être vous pouvez répondre, c'est là où je modifie un peu, à la lumière de ce que vous pratiquez déjà. Pourquoi c'est si important, cette posture?
Alors, pour moi, c'est une posture intéressante dans la mesure où la confrontation de justement ces profils très variés, ces points de vue au sein d'un conseil sont très intéressants. Concernant les personnes concernées en situation de précarité qui composent le cinquième collège, en fait, on peut pas. En fait, c'est une façon de dire leur vécu, leur savoir est irremplaçable. Les politiques publiques, l'État n'a pas cette connaissance-là. Et en a besoin. Elle en a besoin et les personnes concernées qui témoignent ont aussi besoin des autres. Et c'est cette construction, cette confrontation des deux qui font qu'on va changer le regard sur la pauvreté, faire évoluer les politiques publiques, changer les mentalités. C'est en faisant cette confrontation de regards, ces regards croisés, qui est intéressant. C'est pas l'un et l'autre, c'est les deux. Et c'est là, du coup, à travers les avis qu'on produit, que produisent ces conseils, qu'on a cette richesse-là et cet apport.
Voilà, et comme vous dites, en faisant cette confrontation, je vous poserai tout à l'heure, c'est la question suivante, ouais. Comment faire cette confrontation pour que ça produise les effets que vous dites? Ouais, mais on verra après ça. Là, on est encore sur le pourquoi avec, je ne sais pas, Pauline Domingo. Ouais. Pourquoi c'est si important?
Bon, on risque un peu d'enfoncer des portes ouvertes. Je pense que tout le monde ici est convaincu de l'importance de cette confrontation, de tenir compte de ces différents points de vue. Bah, moi, j'allais dire, c'est important, comment dire, aux différentes étapes de la constitution d'une politique publique. C'est-à-dire que c'est important pour ne pas se tromper sur les problématiques qu'on a à traiter. C'est-à-dire que moi, de ma fenêtre, avenue de la Cibelle, j'ai quand même une vue étriquée de ce qu'est la société et ses problématiques. Et donc, on a besoin d'enrichir cette vision. Et voilà, on a besoin des différents points de vue. Donc, on est éclairé par la statistique publique, par les chercheurs et par les usagers eux-mêmes. Ça paraît une évidence. On en a besoin. Enfin, c'est essentiel au moment d'élaborer les solutions. C'est-à-dire que souvent, on identifie le besoin et par la consultation renforcée, on identifie ensemble les besoins. Mais à l'étape de l'élaboration de la solution, c'est aussi essentiel d'être avec les usagers dans la co-construction pour être sûr que derrière la solution qu'on propose, les usagers y recourent. Enfin, on a un problème de non-recours tel, et notamment au dispositif de soutien à la parentalité. On a des taux de fréquentation des dispositifs qu'on soutient dans la branche famille qui sont assez faibles. Autour de 500 000 familles, par exemple, qui vont fréquenter des actions de réseau d'accompagnement, d'écoute, d'appui à la parentalité. Donc voilà, on sait qu'on a à co-construire les solutions pour garantir le recours. L'utilisation, et puis dans la boucle un peu d'amélioration continue, on a besoin de vérifier ensemble les impacts de ce qui est mis en œuvre. Et là, c'est pareil, c'est les usagers qui font l'évaluation de la politique mise en œuvre. Donc c'est voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est inhérent à la conception des politiques publiques et c'est à toutes les étapes du projet. Et puis j'avais envie de dire, c'est aussi à toutes les étapes de déclinaison territoriale. C'est-à-dire, je pense qu'il faut réfléchir à cette co-construction au niveau national, et il y a sans doute des modalités à trouver, au niveau départemental et au niveau infradépartemental. Et on voit des exemples très territorialisés, qui ont été très frappants dans les tables rondes, mais comment on atteint ce même niveau de co-construction à des échelons supérieurs. Bon, voilà.
Merci beaucoup.
M'en arrêter
merci.
Là.
Ouais. Marie,
Pauline et Delphine ont déjà été très complètes, mais en effet, déjà, aucun expert peut se substituer aux experts du vécu. Je ne sais plus, c'est c'était un terme utilisé à un moment, les experts du vécu, donc les parents en ce qui concerne les politiques familiales, les enfants aussi à un certain degré, sont nécessaires à chaque étape de la politique pour pas se tromper, pour pas se tromper, mais aussi pour qu'ils puissent avoir une adhésion à la politique. Si elle est bien pensée et qu'elle est pensée de manière collective, ça sera plus facile de créer un mouvement d'adhésion à cette politique. Trop longtemps, on a les politiques sociales ou les politiques et les politiques familiales ont reposé sur du discours plutôt que du faire avec. On parle beaucoup d'aller vers, mais aussi faire avec, ça permet d'identifier mieux les problèmes et d'identifier dans quel cadre les réponses sont adaptées. Un des exemples souvent utilisés, je vais faire court parce que je sais que le temps passe, c'est quand un travailleur ou une travailleuse sociale dit à un parent « mais votre enfant doit être couché à telle heure ». C'est un fait, voilà. C'est pas de l'accompagnement, c'est pas de la co-construction, parce que si le travailleur social ou la travailleuse sociale va avec le parent chez lui et se rend compte qu'à telle heure, bah en fait, y a une salle de musique en bas qui fait des répétitions à cette heure-là, c'est difficile de coucher l'enfant. Donc comment on trouve une solution ensemble à un contexte donné ? C'est un petit exemple, mais qui permet d'illustrer la nécessité en fait de faire avec les premiers concernés.
Voilà, merci beaucoup. Et donc maintenant la question du comment. On est convaincu, il y a des exemples à la clé. Comment, et notamment, comment continuer à progresser sur cette voie jusqu'à la co-construction, peut-être la co-décision, en tout cas un faire avec dans la fabrication des politiques publiques et les modalités d'application. Mais avant de vous passer la parole, je vais passer la parole à un invité surprise. Donc, il s'appelle Adrien Taquet, donc c'est le secrétaire d'État qui était ici ce matin à la famille et à l'enfance. Qui était donc ici ce matin avant 9h, enfin avant 9h20, puisqu'il devait partir ensuite. Et donc c'est un petit extrait, des 20 minutes qu'il a passé avec nous, une minute sur un petit passage où il répond à la question du comment, très rapidement, dans ce qu'on a repris là. Ah, le même avec le son, c'est encore mieux. C'est en cours de résolution. Aïe, aïe, aïe. Tatiana, t'es dans la salle ? Tatiana est là ? Non. Sinon, on peut remonter la clé, parce qu'il y a le son sur la clé, puisque j'ai entendu la vidéo. Donc, c'est pas grave, on essaye avec le son, mais on va commencer ici. Vous allez faire les essais. Avec la clé, avec le technicien, on va voir si on arrive à avoir le son de la sixième minute, là, etc. Elle est repartie avec ? Eh bien, on va vous écouter. Y en a qui savent lire sur les lèvres ? Il faut toujours chercher des compétences utiles au bon moment. Non, personne. Alors, qui d'entre vous, comment faire pour aller plus loin dans la co-construction ? Pauline Domingo, ouais. Donc là, on ne se raconte pas d'histoire. Hein. Depuis le début, c'est langage de vérité, donc on sait que c'est difficile. Aux UPP, on sait bien que c'est difficile, puis on sait que c'est possible aussi de faire des chemins et encore des chemins et encore des étapes. Hein.
Voilà. Moi, j'avais préparé plutôt la question des leviers de réussite, plutôt oui, que le comment faire. Il me semblait que c'était...
levier de réussite, vous pouvez
non,
y aller.
Non, mais ouais, on pourra aussi descendre... Bon, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a besoin de formation. Je pense que ce qu'on a vu dans les tables rondes, ça ne s'invente pas. C'est pas inné, et donc on voit que les professionnels qui accompagnent les UPP ont un savoir-faire pour recueillir l'expression, pour embarquer d'autres parents, voilà. Et donc il y a à mon avis à travailler aux différents échelons que j'ai indiqués,
c'est-à-dire également au niveau départemental. Voilà, on est en train d'élaborer les schémas départementaux de services aux familles. Donc c'est là que ça va se jouer au niveau départemental, l'élaboration des services pour répondre aux besoins des parents sur les territoires. Et donc, dans les schémas départementaux de services aux familles, comment on forme et on, voilà, on arrive à retirer les savoir-faire locaux et on les met au service de l'élaboration de ces politiques qui vont se décider au niveau départemental. Au niveau national, on n'est pas formé à ça. Moi, je ne sais pas faire. Voilà, c'est pas ma formation initiale. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail de formation des professionnels qui interviennent à tous les échelons et des parents, puisque effectivement, on l'a vu, hein, ça ne s'invente pas. Donc, j'avais l'impression que c'était mon premier levier de réussite, que ce n'est pas inné, quoi. Il ne suffit pas de faire comme ça, que c'est des vraies compétences derrière pour obtenir hein, ce qu'on obtient dans les différents travaux de recherche. Moi, je voulais un peu interpeller la salle. Je disais tout à l'heure le non-recours. Moi, j'ai toujours le sujet de la représentativité. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours peur, voilà, quand on s'accroche, quand on est dans la co-construction, on construit avec un petit groupe. Et comment on est sûr qu'on est bien dans la représentativité de l'ensemble des parents et de leurs problématiques? On l'a vu, il y a par exemple très peu de pères, à la fois dans la salle et parfois dans les recherches qui sont menées. Voilà, donc comment, donc ça aussi, hein, ça demande du talent de travailler sur la représentativité et finalement, voilà, on met la lumière quelque part, mais au fond, il y a les invisibles. Et voilà, comment on arrive à embarquer les non-convaincus, les non-recourants, ceux qu'on ne connaît pas. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que pour démarrer très souvent on part dans la consultation très large et donc par exemple à la CNAF et avec les CAF on a beaucoup travaillé la question de la consultation très ouverte. On a inventé un outil qui s'appelle la CAF à votre écoute et très régulièrement on lance des consultations auprès de tous nos allocataires. Donc avec une très grande liberté de parole et on en a fait notamment une sur le répit parental. Et on a eu énormément de retours de parents hein, voilà, qui sur notre site internet. Et donc, voilà, on a ces retours de cette consultation nous conduisent aujourd'hui à travailler sur une doctrine répit parental au sein de la branche famille qu'il faudra tester avec des parents.
Voilà, merci beaucoup. Donc, Je reformule en complétant la question comme vous l'avez fait. Hein. Comment faire mieux, c'est-à-dire quel levier de réussite pousser hein.
Oui, donc je ne reviendrai pas sur le point que Pauline a évoqué sur le besoin d'accompagnement ou de formation des parents et des professionnels pour que la co-construction se fasse. Il y a un besoin d'accompagnement, mais il y a aussi un besoin de temps. Il faut prendre le temps de pouvoir co-construire, ce qui est parfois difficile parce que ça ne va pas forcément avec le temps politique qui parfois veut que les choses aillent vite. Et la co-construction, les UPP le montrent, en sont un bon exemple. Ça nécessite du temps pour identifier les questionnements, les réponses, interroger les parents, avoir aussi suffisamment de parents embarqués dans le projet. Donc il y a la question du temps. Et la question, je pense, c'est un peu ce que disait Pauline sur la représentativité, comment la participation ne s'institutionnalise pas. Comment on fait ensemble que, ce que représentent bien les UPP par les générations qui se succèdent, comment on fait en sorte qu'une fois qu'un parent est embarqué, il puisse embarquer ses pairs et qu'il y ait un relais comme ça pour co-construire les politiques publiques, ça ne repose pas sur un groupe de parents identifiés systématiquement le même. Donc voilà, je pense que c'est là où on doit travailler ensemble.
Merci beaucoup Marie-Lambert-Muillard. Delphine Aubert.
Alors, moi, je voudrais dire deux choses. Alors, il y a déjà comment on garantit une bonne qualité de participation. Ça veut dire que là, il y a des prérequis à ne pas négliger. Donc effectivement, il y a le fait de bien préparer les gens à cette participation, donc il faut les accompagner, il faut faire émerger une parole collective qui va au-delà du témoignage, donc ça veut dire qu'il y a des groupes d'appui qui sont normalement là pour travailler certains thèmes qui, après, derrière, effectivement, permettront à ces personnes qui sont déléguées de pouvoir prendre la parole au nom d'un groupe. Donc ça, effectivement, ça demande du temps, une formation. Donc ça, effectivement, c'est un temps incontournable. Alors, au CNLE, on essaye de l'avoir, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'on est pris par le temps. Moi, je le dis, puisque effectivement, le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est un lieu de participation. Donc, je vois bien en quoi, finalement, ces prérequis, on n'est pas super conforme avec elles tout le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas envoyer systématiquement aux gens qui participent à nos groupes de travail les documents très en amont, parce que derrière, on les reçoit nous-mêmes très tard, les PowerPoint, etc. Donc, on sent bien que on écourte les temps de préparation et que ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même préparer cette parole en amont, en l'accompagnant, en formant les gens. Après, derrière, nous, on a des questions qui se posent, mais qui se posent à toutes les instances qui font de la participation. C'est quand on a des personnes qui sont bénévoles, qui sont là tout le temps, comment, et qui sont sursollicités la plupart du temps. Nous, on a un vivier, le 5e collège est consulté pour des travaux du CNLE, mais est consulté également par France Stratégie pour évaluer la stratégie pauvreté, est consulté par les défenseurs des droits sur la fracture numérique. Enfin bon, on multiplie les consultations, parce qu'effectivement, c'est un groupe composé de 32 personnes qui est quand même voilà, de qualité, qui, en fait, leur parole est recherchée. Du coup, derrière, comment fait-on, nous, alors que cette parole est bénévole, pour limiter justement ces sursollicitations, sachant que les personnes sont défrayées pour les frais d'hébergement et autres, mais pas plus que ça. Ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des experts. C'est là où on a un point quand même. Donc nous, on travaille sur la valorisation de ce travail bénévole. C'est des questions qu'on se pose, on essaye de creuser cette question-là, ça c'est la première question. La deuxième question qui se pose à nous, c'est comment fait-on pour accompagner les personnes en fin de mandat ? Une fois qu'elles ont travaillé dans le cadre de notre mandat au CNLE, ça va se terminer. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment fait-on après ? C'est quand même des expériences qui transforment les gens qui le vivent. Comment fait-on ? Et ça, c'est vraiment une question aussi qu'on se pose.
Excusez-moi, ces deux questions en particulier sont travaillées par les 5 collèges ensemble ? Vous
n'en êtes
pas encore là ?
Pour l'instant, on va les travailler effectivement ensemble. Ce sera des questions qu'on mettra sur la table, effectivement, qu'on travaille également avec la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. C'est des questions qu'on travaille également avec la délégation à l'accès aux réfugiés, parce que c'est des questions qui se posent pour toutes les instances qui font de la participation.
Merci beaucoup. Juste en quelques mots, sans le trahir et sans développer de ce que disait Adrien Taquet dans la magnifique vidéo que vous n'avez pas vue, il soulignait que dès qu'il entreprend une nouvelle politique publique dans son champ, l'enfance et la famille, il essayait, et il le faisait, enfin il a donné quelques exemples, de créer un comité dans lequel il y ait des usagers ou utilisateurs ou futurs bénéficiaires ou voilà, qui soient présents. Voilà, c'est notamment ce point-là qu'il soulignait.
Si je peux me permettre, dans la mesure où on demande maintenant systématiquement à ce qu'il y ait des usagers dans toutes les démarches effectivement de co-construction des politiques publiques, généralement on va chercher les gens du 5e collège pour les politiques voilà. De lutte contre la pauvreté, d'où le fait qu'on est sursollicité.
Ça vous retombe dessus. Voilà.
Non, mais je le dis.
Donc 32, c'est pas encore suffisant.
C'est déjà beaucoup, parce que si on veut faire les choses correctement, ça demande un gros effort d'accompagnement et de...
En tout cas, ça rejoint bien la problématique que vous soulignez tout à l'heure, Pauline Domingo. Comment on fait au niveau national, hein, avec des modalités très concrètes à trouver, y compris sur ces questions-là.
Je m'étais noté un autre petit mot aussi. Dans les leviers de réussite, j'avais mis tenir ses promesses. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire croire qu'on est dans la co-construction et que les gens aient l'impression qu'il n'y a jamais rien qui change et qu'on n'est pas, que finalement ce travail n'a rien donné. Donc typiquement, c'est pas ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui se passe avec l'application 1000 jours. C'est-à-dire qu'au contraire, on voit le produit se développer et donc l'action se mettre en place. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup à travailler côté institution sur le lien de confiance. C'est-à-dire, on travaille dans la co-construction, il y a de la confiance et cette crédibilité, ce lien de confiance, on le maintient parce que on tient ses promesses et qu'il y a des choses vraiment qui bougent. Là. Et donc je pense que ça fait vraiment, enfin, ça place la barre haute, mais je pense que c'est le seul moyen de tenir dans la durée la co-construction de ces politiques.
Tenir ses promesses, merci. Jean-François Robic, en 2-3 minutes, sur quel point tu aurais envie de revenir ou de souligner en disant « Ah, je chope ça dans tout ce qui a été dit ».
Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, tout ça repose sur du collectif. À une époque où d'aucuns nous invitent à plutôt se replier sur soi. Se replier sur soi dans nos pratiques quotidiennes, dans la société, on le voit. Hein. On parlait tout à l'heure des dérives du numérique, par exemple. On peut aussi faire du collectif avec le numérique. Et effectivement, le collectif est au cœur des démarches comme les nôtres. Les quelques mois qu'on a passés de confinement ont été particulièrement traumatisantes, je dirais, pour la participation des uns et des autres aux travaux des universités populaires de parents. Mais on a réussi à passer le cap, et les parents ont réussi à passer ce cap aussi en tirant le meilleur des outils numériques. Donc voilà, de l'espoir dans finalement notre propre résilience à trouver encore des modalités de participation et d'expression du collectif, même dans les moments les plus difficiles. Voilà, donc au-delà de cette question du collectif, vous disiez effectivement qu'il faut, Mme Domingo, avoir un aboutissement et puis pouvoir évaluer finalement ce que l'on fait. Effectivement, tout ça c'est une aventure, et comme toute aventure, il y a un objectif qui est poursuivi. Et c'est important, je vous rejoins, que pour que le collectif puisse perdurer, puisse exister au-delà même d'un premier travail qui serait mené, de s'assurer que ce travail est mené à son terme et qu'il puisse, et là ce serait encore mieux, et c'est quand même le cas dans beaucoup de situations, apporter du changement concret aux situations, certes des individus, mais de la société en général. Voilà. Autre réaction que j'avais, c'était sur effectivement la sursollicitation des parents, puisqu'on parle des parents ici aujourd'hui, mais il y a d'autres acteurs de la société qui se retrouvent dans la même situation. À une époque, on a eu travaillé dans certaines UPP sur le statut d'un parent médiateur, par exemple. Voilà. Et toutes ces questions étaient venues sur effectivement la possibilité pour ce parent de se donner du temps pour participer à l'œuvre collective. C'est extrêmement interpellant sur plein d'aspects, ne serait-ce que sur la définition même du bénévolat. Donc la question d'une rémunération ou pas, d'une indemnisation, d'un défraiement. Bon, bref, on cherche tous les mots qu'on veut. En fait, ce qu'on cherche, c'est à permettre aux personnes d'arriver à trouver du temps et que ce temps leur soit quelque part rétribué d'une certaine manière. Et c'est finalement assez normal, puisque vous-même, vous disiez, Mme Lambert, que d'autres experts, eux, bénéficient de ce temps-là sur leur propre temps de travail, par exemple. Voilà. Donc effectivement, c'est des questions qui sont à creuser pour permettre, là encore, au collectif d'exister. Autre élément qui était cité par l'une d'entre vous tout à l'heure, c'est la question des publics qui sont éloignés. Je crois que le terme qui avait été employé, je crois que c'est vous, Mme Domingo, la question des non-accessibles, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas aujourd'hui à notre portée pour participer à ces collectifs. Puisqu'effectivement, les parents qui sont là ont une forme de légitimité par leur travail qu'ils ont mené, mais sur un certain nombre de thématiques, il y a des parents qui sont totalement absents. Alors on parle des pères, et ça me fait écho à un travail qu'on a mené la semaine dernière avec le week-end dernier en Haute-Garonne sur la place des pères au sein des REAP. Effectivement, les pères dans tout ça. Et donc la conclusion du travail de la semaine dernière, c'est de dire mais on va proposer à ces papas de s'organiser en UPP. Effectivement, voilà une perspective de mobilisation d'un public qui est difficile à toucher. Mais on peut parler des personnes extrêmement éloignées de toutes nos discussions et de toutes nos considérations par leur statut social. Et là, les travaux du CNLE sont là pour illustrer les difficultés rencontrées par ces personnes. Donc il y a un véritable enjeu à pouvoir toucher, à pouvoir associer, à pouvoir co-construire aussi avec ces personnes qui sont très éloignées. Et effectivement, quand vous parliez de difficultés liées aux formations, je pense qu'il n'y a pas que les professionnels qui ont besoin de formation, mais on a tous besoin de se former et de se co-former sur ces sujets-là. Voilà.
Voilà, merci beaucoup, Jean-François. Je ne sais pas si l'une ou l'autre veut encore ajouter un mot sur ce que vient de dire Jean-François ou...
Peut-être très rapidement sur ce qui a été dit dans l'atelier auquel Pauline et moi avons participé, donc sur la transmission. Un des points très importants était quand les institutions n'arrivent pas à aller vers les parents, même si des mails sont envoyés par exemple, ou on fait des appels à candidature auxquels on ne trouve pas de réponse. La question, c'est de se poser il faut qu'on se pose la question de pourquoi on n'arrive pas à trouver des réponses à ces candidatures, et aussi à se reposer sur les parents qui sont déjà très actifs et très impliqués. C'était très bien illustré dans l'atelier en disant moi, mère impliquée dans une UPP, je suis allée voir les autres parents, je suis allée leur demander pourquoi, je suis allée leur donner des clés d'explication, et c'est ça qui a permis de faire la différence dans la participation. Et c'était vraiment très très intéressant.
C'est-à-dire, vous le dites bien, quand les deux parties sont éloignées l'une de l'autre, mais quand on fait la phrase « qui est éloigné de qui ?», est-ce que c'est des parents qui sont éloignés ou est-ce qu'on est encore institution professionnelle éloignée des parents? Est-ce que vous dites, il serait bien que c'est peut-être la seconde assertion qui donne la responsabilité d'aller vers Jean-François?
Ça me renvoie à un souvenir de débat précédent sur la question, enfin sur le fait de baisser les armes finalement, de se laisser surprendre par l'autre, et sur le fait que souvent, on tombe dans une facilité lorsqu'on constitue ces comités, ces groupes de travail, etc., à retomber effectivement sur des personnes qui sont déjà investies, déjà identifiées dans le paysage. Mais c'est tellement plus riche d'aller chercher des personnes qui, effectivement, n'apparaissent pas aujourd'hui. Alors, effectivement, au risque que ce soit un peu violent, au moins au début. Mais est-ce qu'on ne doit pas passer par là ? Et se dire que finalement, on accepte d'en prendre un petit peu plein la tête pour pouvoir aller plus loin et pouvoir co-construire avec des gens qui ne seraient peut-être pas venus justement co-construire avec soi.
En tout cas,
j'ai l'expérience au sein du 5e collège, par exemple. Il y a quand même des nouveaux entrants, entre guillemets, puisqu'en fait, la participation au CNLE date depuis 2012. Hein. Donc, il y avait 8 personnes en situation de précarité. Là, il y en a 32. Et donc, il y a encore les anciens qui sont là. Donc, du coup, ils jouent un peu ce rôle de tutorat. Enfin, ils mentorent un peu les nouveaux. On laisse le temps aux nouveaux aussi de prendre leur place. Donc, au fur et à mesure que les groupes de travail, les réunions se passent, on sent qu'ils osent prendre la parole, ce qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils comprennent, ils ont leur point de référence. Et du coup, derrière, ils arrivent progressivement à prendre leur place. Mais effectivement, on ne peut pas, d'entrée de jeu, donner la parole à des gens qui arrivent comme ça, qui débutent leur mandat. Il faut... Mais on sent qu'au bout d'un certain temps, en tout cas, là, on voit bien, nous, les membres du 8e collège qui sont maintenant encore chez nous, là, clairement, prennent la parole très facilement, prennent des initiatives, font des propositions, enfin, voilà. Voilà.
Merci, on va considérer cette dernière expression comme mot de la fin. Merci pour la richesse que vous nous avez montrée de ce qui existe déjà dans les institutions, le chemin sur lequel on est, et puis tout ce qui reste à faire que vous avez aussi éclairé collectivement. Et merci beaucoup. Et encore un petit interlude, on en a eu plusieurs avec Bar, qui ne doit pas être...